Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le mouvement des cheminots entre-t-il dans sa dernière ligne droite? Réunion de tous les syndicats ce soir pour décider de la marche à suivre. Avec une question, perturber ou pas les vacances d'été? Ce sera non pour l'UNSA, l'un des syndicats réformistes. On y revient dans un instant. Une longue page consacrée dans ce journal à la question migratoire. À 10 jours d'un sommet européen très attendu, Emmanuel Macron est en Allemagne aujourd'hui. Son sommet franco-allemand pour tenter de désamorcer une crise qui met toute l'Europe à l'épreuve. Nous serons en banlieue de Berlin avec notre correspondant. Nous serons également au Sénat qui doit voter la loi Asile et Immigration. Les associations de défense des migrants en ont profité pour sensibiliser les élus de la République à leur cause. La crise migratoire, mais à la frontière franco-italienne cette fois, ce sera l'objet de l'interview du 13h. La commission consultative des droits de l'homme sort un rapport très sévère sur la politique de l'État français dans cette région. Dans le studio, l'auteur de cet avis, Marion Guéma. Au sommaire également, des parents homosexuels qui se disent discriminés dans leur démarche d'adoption. Les États-Unis et la Chine au bord de la guerre commerciale. Bientôt des bonbons sans additifs et des Français de plus en plus généreux. 3/4 des Français font des dons chaque année. La météo, Elodie Calac, une journée agréable en perspective.
Oui, plus chaude avec souvent 25 à 30 degrés cet après-midi, un petit peu moins près de la Manche, 18 à 23, mais plus autour de la Méditerranée jusqu'à 33 degrés. Côté ciel, le soleil reprend le dessus, il va revenir entre la Vendée, la région parisienne et la Lorraine, et ça reste bien nuageux tout de même de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine.
Prévision complète en fin de journal. Bienvenue dans le 13h. Peut-être le bout du tunnel à la SNCF. C'est aujourd'hui que l'on devait savoir si la grève des cheminots s'arrêterait bientôt ou si elle déborderait sur les vacances d'été. Après plusieurs jours de report, réunion cruciale en effet de l'intersyndicale à 18h, la CGT pousse afin de perturber le début des grandes vacances. Mais l'UNSA, deuxième syndicat de l'entreprise, elle n'a pas l'intention de poursuivre le mouvement. Elle vient de dire qu'elle ne continuerait pas en tout cas en juillet, mais que des actions sont envisagées au niveau local. Écoutez le secrétaire général adjoint des cheminots de l'UNSA, Florent Monteillet.
On va s'inscrire au-delà dans un calendrier qu'on aura à définir de façon unitaire. Ce sera des actions qui n'auront pas lieu pendant les mois de l'été, c'est-à-dire juillet et août, et qui seront sur des cibles bien précises. Ça peut être effectivement lors de négociations de la convention collective que nous pourrions avoir des temps forts de mobilisation pour peser sur ces choses-là. C'est la position nationale, donc ça peut revenir, mais au niveau régional, on aura également certainement des structures qui vont vouloir participer à des démarches donc locales avec d'autres organisations syndicales. C'est ce que permet l'EA de l'autonomie, qui est un des fondements de notre organisation syndicale. Ce n'est pas exclure. Mais nationalement, on ne s'inscrira pas au-delà du 28 juin prochain.
Voilà, Florent Monteillet de l'UNSA. Alors, ce n'est pas totalement clair, hein, Maxime Debs, vous êtes en studio avec nous, hein, des propos qui ne sont pas extrêmement tranchés, mais ce qui semble clair, en tout cas, c'est que pour le mois de juillet, pour les vacances d'été, il n'y aura pas l'UNSA qui poursuivra le mouvement.
Hein. Oui, en tout cas, ce n'est pas vraiment une surprise. Cela fait des semaines que l'UNSA, un deuxième syndicat, celui des cadres, se tâte. Maintenant que la loi est votée, adoptée, que les lignes ne peuvent plus bouger sur le texte, il faut être réaliste et légaliste, me disait il y a quelques jours déjà Roger Dillensenger, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Maintenant, Sébastien, eh bien, les regards, bien sûr, vont se porter sur les autres cet après-midi. Mais déjà, sauf surprise, on imagine mal la CFDT partir en croisade en juillet. Elle, qui a déjà accepté cette semaine de lever le pied pour le bac. Dans cette affaire, la CGT pourrait très vite se retrouver seule. À moins que Sudrail ne lui emboîte le pas, ça c'est possible. Mais les deux syndicats sauront-ils s'entendre? Sudrail ayant largement contesté la méthode de la grève en pointillé depuis 3 mois. L'organisation troisième à la SNCF est favorable à une grève reconductible depuis le départ. Bref, l'intersyndicale prévue ce soir à 18h s'annonce pour le moins mouvementée.
Réponse ce soir à 18h. Maxime Debs du service économique de France Inter. Merci. On ouvre maintenant la page question migratoire de ce journal depuis des années maintenant. Il ne se passe pas un jour ou presque sans qu'on évoque dans nos journaux cette question centrale. Il y a eu ces premiers bateaux venant de Libye, l'horreur face à la mort du petit Elan. Plus récemment, vraiment l'odyssée de l'Aquarius. Et puis ce matin, les derniers chiffres de l'ONU, un nouveau record du nombre de déplacés dans le monde, 68 millions de personnes déplacées, dont la moitié d'enfants. Face à cette crise la plus lourde depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, plus divisée que jamais, ne parvient toujours pas à se mettre d'accord. C'est dire si le sommet européen du 29 juin prochain, dans 10 jours, s'annonce donc capital et extrêmement tendu. Alors pour anticiper ce sommet, c'est le couple franco-allemand qui est à la manœuvre. Sommet entre Emmanuel Macron et Angela Merkel aujourd'hui dans le château de Meseberg, près de Berlin. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant sur place. Qu'est-ce que les deux dirigeants s'apprêtent à dire, à décider pour tenter d'apaiser les tensions européennes ?
Il ne peut y avoir qu'une réponse commune des Européens aux défis migratoires. Voilà le message que voudront faire passer Emmanuel Macron et Angela Merkel aujourd'hui. Un appel à la responsabilité et au compromis au moment où plusieurs pays sont tentés de prendre des mesures nationales, unilatérales de fermeture des frontières, y compris en Allemagne, où Angela Merkel est sous la pression de ses alliés conservateurs. Son ministre de l'Intérieur menace d'agir seul au 1er juillet si aucune solution n'est trouvée. Angela Merkel a donc plus que jamais besoin du soutien d'Emmanuel Macron. Le couple franco-allemand va tenter de donner une impulsion commune en s'appuyant sur les sujets les moins clivants, comme le renforcement de Frontex, le dispositif de contrôle des frontières extérieures de l'Union, sur le travail également avec les pays de départ des migrants comme la Libye, et puis un autre dossier beaucoup plus brûlant, celui-là, la réforme du règlement de Dublin sur l'accueil des demandeurs d'asile. Un compromis au Conseil européen sur la remise à plat de cet accord semble, il faut le dire, beaucoup plus hypothétique.
Alors l'autre gros dossier de ce sommet, Cyril, dossier en partie, en grande partie même éclipsé par la crise migratoire, c'est la réforme de la zone euro, un des marqueurs essentiels d'Emmanuel Macron. Angela Merkel devrait céder à la pression de son voisin français, mais là aussi par petites touches, hein, Cyril.
Oui, sur la création d'un budget de la zone euro, l'une des propositions phares du chef de l'État, la chancelière avance avec prudence. Quelle forme prendra ce budget? Quel montant? Le Parlement allemand, le Bundestag, gardera-t-il un droit de regard? Tout cela n'est pas encore fixé, mais les ministres des Finances français et allemands ont travaillé en amont et Paris et Berlin semblent proches d'un accord sur plusieurs points. L'achèvement de l'union bancaire, l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés et sur la transformation du mécanisme de solidarité en fonds monétaire européen.
Cyril Sauvageau, correspondant en Allemagne, en direct du château de Meseberg, près de Berlin. Asile, immigration, on y revient. Le dossier est aussi sur la table aujourd'hui des sénateurs français. Les parlementaires doivent débattre et voter du texte du gouvernement. Un texte très critiqué, on le sait, par les associations de défense des migrants. Alors pour sensibiliser les 348 élus du Sénat à ce projet jugé trop répressif, un collectif d'associations a amené ce matin devant le palais du Luxembourg 348 gilets de sauvetage. Le reportage de Delphine Evenoux.
Sur le trottoir, les dizaines de gilets orange fluo accrochent l'œil comme ils accrochent la conscience de la quelques trentaine de militants venus les déposer.
Pour nous, les gilets de sauvetage, c'est une charge émotionnelle.
Jocelyn habite le nord-est de Paris.
C'est vraiment ces tas de gilets qui sont sur les îles de Lampedusa, de Lesbos en Grèce, où des gens viennent mourir.
Depuis 2 ans, avec plusieurs collectifs de citoyens, il distribue en bas de chez lui petits déjeuners et vêtements.
Mais comme ils ne meurent pas dans nos rues, en bas de chez nous, on s'en fout quoi. Donc on veut ramener ça sur la place publique, devant le Sénat où il n'y a pas un migrant qui traîne, hein, et nous dire collectivement qu'on a une responsabilité dans ces morts-là.
Une dizaine de sénateurs arrivent.
On va vous remettre donc ce gilet qui renvoie à votre responsabilité d'élu.
Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris.
Face au cynisme du gouvernement, face au benchmarking, au shopping de l'asile, nous sommes là pour dire non à ce cynisme.
Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste, ira à défendre la création d'un délit d'entrave au droit d'asile.
On a constaté ce qui s'est passé dans les Alpes il y a quelques semaines. L'asile est un droit. À partir du moment où on a créé ce droit, ceux qui entraveraient l'exercice de ce droit doivent être aussi punis.
Les sénateurs traversent le trottoir pour rejoindre les couloirs feutrés du palais du Luxembourg. Les militants remballent leurs gilets. Une partie ira sur le bateau de l'Aquarius pour sauver des migrants.
Le reportage de Delphine Evenoux devant le Sénat. On poursuit sur ces questions migratoires maintenant avec un rapport choc, pourrait-on dire, celui du CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la situation des migrants précisément à la frontière entre la France et l'Italie. Alors rappelons que cet organisme, la CNCDH, n'est pas une ONG militante, mais une autorité administrative et son dernier avis donc est un véritable réquisitoire contre la politique migratoire de l'État. Bonjour Marion Guémas.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cet avis de la CNCDH. Comment avez-vous d'abord travaillé sur cette question à la frontière entre entre la France et l'Italie. Vous êtes-vous rendu sur place? Quelles autorités avez-vous rencontrées? Comment avez-vous travaillé?
Alors c'est un sujet qu'on a commencé à suivre à l'automne dernier et qu'on souhaitait intégrer dans le cadre de l'examen du projet de loi Asile Immigration. Et donc nous sommes rendus dans les Hautes-Alpes en mois de mars, puis dans les Alpes-Maritimes au mois d'avril. Sur place, on a rencontré des associations, les autorités préfectorales, la police aux frontières, le conseil départemental, pour justement avoir une vision assez claire de ce qui se passait du point de vue de tous les acteurs, pour justement rendre un avis le plus objectif possible.
Alors vous dites que la situation vous a choqué, c'est les mots que vous employez dans ce rapport. Qu'est-ce qui est choquant dans la situation que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé?
Alors il y a plusieurs points qui ont attiré notre attention. Tout d'abord, c'est le non-respect des procédures à la frontière, des procédures de non-admission, où finalement les autorités préfectorales, la police aux frontières considèrent que les personnes qui sont arrêtées à la frontière ne devraient pas disposer des droits qu'elles ont si elles étaient arrêtées à l'aéroport, par exemple, puisque par détournement un peu juridique, ils considèrent que la frontière terrestre n'est pas vraiment une frontière terrestre où s'appliquent les droits.
Alors que donc, c'est faux, ces droits doivent s'appliquer.
L'interprétation qu'en fait la CNCDH, c'est qu'effectivement c'est faux en application du code frontière Schengen. Donc les personnes sont renvoyées immédiatement en Italie sans qu'aucun droit ne puisse être exercé.
Droit notamment de déposer un dossier de demande d'asile, par exemple, ce genre de choses.
Exactement. Alors c'est vrai qu'on nous a expliqué qu'aucune demande d'asile n'avait jamais été déposée à la frontière, ce qui est assez surprenant. Regarde de manière très simple du profil des personnes qui arrivent à la frontière, mais également de la hausse du nombre de demandeurs d'asile en France. Ça paraît un peu contradictoire, et encore plus le tribunal administratif de Nice a condamné à plusieurs reprises le préfet pour violation du droit d'asile justement à la frontière.
Ça veut dire que les autorités françaises n'appliquent pas la loi à la frontière franco-italienne?
Elle l'applique de manière très 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 relative.
On a finalement très restrictive.
Exactement. On a finalement l'impression que vraiment la lutte contre les flux migratoires, l'immigration irrégulière, prend le pas sur le respect des droits et la dignité des êtres humains.
Alors en parlant de dignité, effectivement, il y a aussi la question des conditions d'accueil et de rétention au sens large des migrants qui sont accueillis à cet endroit-là de cette région en France. On va prendre l'exemple du centre de Menton. Vous en parlez, vous y revenez dans ce rapport. Que s'y passe-t-il exactement?
Alors le problème à la frontière, on a observé trois centres, un à Briançon, deux à Menton, qui maintiennent les gens. Donc les gens sont privés de liberté, en dehors de tout cadre légal. C'est pas un centre de rétention,
tout à fait.
C'est pas une zone d'attente, mais les personnes, dans les faits, y restent plusieurs heures, parfois la nuit.
Ils sont privées de liberté.
Exactement, voilà. Puisqu'elles ne peuvent pas, dans les faits, repartir quand elles le veulent, sauf à Briançon, où a priori elles sont censées pouvoir repartir pendant la nuit. À Menton, Pont-Saint-Louis, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a d'ailleurs rendu un rapport très récemment sur ce lieu-là également. Les gens y restent la nuit entière, en fait, à partir de la fermeture de la frontière italienne en fin de journée, jusqu'au lendemain matin, dans des conditions absolument indignes. Voilà, au moins 40
par contre. Dans la totalité du centre.
Trois algécos, en fait, dans une cour grillagée. Il n'y a aucun mobilier. Ça a été renforcé en tôle parce qu'il y aurait eu des dégradations. Il n'y a pas d'électricité. Ce qui veut dire que les personnes sont maintenues de 19h jusqu'à la frontière réouvre le matin, sans électricité, sans rien. On leur distribue des bouteilles d'eau, mais c'est quand même particulièrement indigne.
Vous demandez à ce qu'on ferme ce centre?
Oui.
Autre dérive que vous dénoncez dans ce rapport, la situation réservée aux mineurs. On leur demande souvent de prouver leur âge quand ils passent la frontière. Ce qui est illégal, selon vous, c'est ça?
Alors, le problème, c'est que normalement, l'âge est déclaratif. Les mineurs devraient être considérés comme mineurs dès lors qu'elles le déclarent. En pratique, c'est pas le cas. Mais comme c'est le cas, malheureusement, sur le territoire national.
Et on observe souvent que dans les formulaires qu'ils ont à remplir, ces mineurs, des cases sont déjà précochées, notamment la case retour en Italie, alors qu'ils ne l'ont pas décidé.
C'est pas uniquement pour les mineurs, c'est pour tout le monde. Avec effectivement, puisque ce que je vous expliquais, les autorités considèrent que la procédure applicable normalement ne s'applique pas à la frontière terrestre, considèrent que le jour franc et les droits dont la personne devrait pouvoir disposer ne s'appliquent pas, donc ils précochent les cases en disant que la personne ne souhaite pas exercer ses droits.
Le résultat de tout ça, c'est que les gens prennent de plus en plus de risques, j'imagine. On parle de 16 morts entre 2016 et 2018 dans les Alpes françaises, Alpes-Maritimes notamment. Est-ce que vous diriez que l'État est complice, entre guillemets, de ces parcours mortels des migrants?
Il semble en tout cas que l'État ne fait rien. Encourage finalement ces parcours de plus en plus dangereux en poursuivant les migrants pour les intercepter à la frontière. C'est ce qui s'est passé dans les Hautes-Alpes. Il y a deux personnes qui sont décédées apparemment en essayant d'échapper à la police. L'État finalement est sourd à la souffrance des gens et aux risques auxquels ils s'exposent pour traverser la frontière.
Merci beaucoup Marion Guémas. Je rappelle que vous êtes le rapporteur donc de l'avis de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Merci d'être venu dans le journal de 13h.
Le journal de 13h sur France. France Inter.
L'adoption pour des parents homosexuels, c'est désormais un droit depuis 2013. Plus question théorie de se cacher auprès des services chargés de ces procédures. Sauf que ça, c'est la loi. Et dans les faits, plusieurs départements sont soupçonnés de faire de la discrimination. Bonjour Thomas Schoner.
Bonjour.
En clair, des couples homosexuels sont soit mis tout en bas de la liste, hein, soit choisis pour des enfants plus difficiles, comme dans cette histoire en Seine-Maritime.
Oui, France Bleu Normandie interroge la responsable du service adoption du département. Un couple homosexuel veut adopter. Eh bien, voilà ce qu'en dit Pascal Lemar.
Ils seront pas prioritaires, mais ils sont pas exclus du tout de l'adoption.
Voilà, ils ne sont pas prioritaires, sauf s'ils acceptent, et là je cite, des enfants atypiques.
Un enfant dont personne ne veut, puisqu'il y a des gens qui veulent pas adopter des enfants trop cassés, trop perturbés psychologiquement, trop grands, vous voyez, handicapés.
Voilà pour la Seine-Maritime. En Meurthe-et-Moselle, il y a deux mois, un président de conseil de famille déjà a dit lui aussi qu'il privilégiait les couples avec un père et une mère. Ces propos, ils sont insupportables pour Alexandre Hurwitz de l'Association des familles homoparentales. Cela vient surtout confirmer, selon lui, la discrimination dont sont aujourd'hui victimes les couples homosexuels.
On va vite faire comprendre à nos familles que ça va être plus compliqué, qu'il y a déjà beaucoup de monde avant, qu'il peut y avoir des personnes qui ont des convictions, qui veulent faire primés dans leur décision, et au lieu de dire eh bien vous n'aurez pas d'enfant parce que vous êtes homosexuel, donc ça va jamais dit dans ces mots-là, on dira qu'il manque 5 mètres carrés dans l'appartement.
S'il y a discrimination, comment l'éviter? Une procédure anonyme, c'est ce que demande par exemple l'association. En attendant, elle conseille à ses adhérents eh bien de se présenter comme parents célibataires pour que leur dossier remonte un peu plus haut dans la pile.
Thomas Schoner, merci. L'association des familles homoparentales annonce qu'elle porte plainte contre cette responsable qu'on vient d'entendre du service adoption au département de Seine-Maritime. Les bons chiffres de la sécurité routière qui se confirment au mois de mai. Le nombre de morts sur les routes de France a baissé de 8,4% par rapport à avril. Avec malgré tout cette réserve, mortalité nettement en hausse chez les deux roues de petite cylindrée sans permis, plus 13% de morts au mois dernier. C'est un autre dossier qui fait bondir les syndicats. Un petit amendement qui vient de se glisser dans l'énorme loi Pénicaud 2, la loi sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. La possibilité de diminuer par décret les indemnités chômage de ceux qu'on appelle les permittents, ces demandeurs d'emploi qui par ailleurs cumulent aussi des petits boulots. Explication, Laurent Kramer.
Certains secteurs comme l'hôtellerie, l'événementiel ou le médico-social où les arrêts maladie sont très fréquents abuseraient de ces CDD à répétition, une forme de permittance en référence à l'intermittence des personnes qui alternent chômage et contrat court dans la même entreprise. Au final, ce sont 800 000 demandeurs d'emploi qui vivent à la fois de CDD et d'allocations chômage. Ils gagnent selon l'UNEDIC 1 320 euros en moyenne par mois et coûte plus d'1 milliard d'euros à l'assurance chômage. La promesse initiale du gouvernement était de mettre fin aux dérives de certaines entreprises qui embauchent et réembauchent les mêmes salariés en taxant ces CDD à répétition. Mais le patronat freine des quatre fers et estime qu'il est impossible de mettre fin à ce type de contrats courts qui correspondent, selon eux, aux aléas de l'activité. Alors que la promesse du gouvernement était bien de mettre en place ce bonus-malus pour encadrer les entreprises, les syndicats comme les députés de La République En Marche ne comprennent pas aujourd'hui que le ministère du Travail change subitement de méthode en proposant également de s'attaquer aux indemnités des chômeurs. Au final, les députés ont donc choisi par un amendement de lier les deux mesures. Avant de toucher aux indemnités des chômeurs, le gouvernement devra impérativement mettre en place le bonus-malus et taxer les entreprises.
Laurent Kramer du service économique de France Inter. Voilà une décision qui interroge certaines victimes des attentats du 13 novembre. La libération ce matin par le juge d'instruction d'un des convoyeurs de Salah Abdeslam. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Il s'agit d'Ali Oulkadi, qui avait convoyé l'un des membres du commando dans la ville de Bruxelles.
C'était le 14 novembre 2015. Salah Abdeslam rejoint la Belgique grâce à deux amis. Puis l'un d'eux appelle un troisième homme, Ali Oulkadi, qui va le déposer près de l'appartement où ont été fabriqués les explosifs. C'est un ami de son frère, Brahim Abdeslam, qui s'est fait exploser à Paris. Oulkadi sera arrêté quelques jours plus tard et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Parmi les éléments à charge, il y a aussi une trace de son ADN sur une fourchette de l'appartement conspiratif, ce qu'il explique par le fait qu'il avait mangé dans le bar des frères Abdeslam. Le jeune homme affirme qu'il n'a jamais su qu'il préparait des attentats. Le 9 mars dernier, lors d'une confrontation dans le bureau du juge Tessier avec Oulkadi, Salah Abdeslam était sorti brièvement de son silence pour le dédouaner. Il ne pouvait pas savoir que j'étais l'ennemi public numéro 1, lâche le survivant des commandos de Paris. Oulkadi était à l'isolement depuis près de 3 ans à la prison de Maubeuge. L'année dernière, le juge d'instruction avait prévenu les victimes du 13 novembre que les 3 chauffeurs d'Abdeslam seraient sans doute libérés avant le procès. Oulkadi est le 2e à sortir. Il devra respecter à Bruxelles un contrôle judiciaire très strict.
Sarah Guibaudot, spécialiste police-justice à France Inter, merci. L'affaire des emplois supposés fictifs au Front National. La justice européenne a confirmé ce matin que Marine Le Pen devrait rembourser près de 300 000 euros. 300 000 euros réclamés donc par le Parlement européen en raison de l'emploi douteux d'une assistante parlementaire quand elle était députée européenne. Marine Le Pen annonce qu'elle va faire appel. La suite de la crise à LR, au lendemain du limogeage de Virginie Calmels, Laurent Wauquiez a envoyé hier soir un mail aux adhérents du parti. Pas de commentaire à la presse, mais juste un courrier aux militants pour s'expliquer. Il a salué le parcours professionnel et les qualités personnelles, je cite, de son ex numéro 2, mais il lui a reproché son choix de l'isolement en attaquant publiquement, je cite encore, la feuille de route du mouvement. Le patron des LR appelle aussi son camp à se rassembler. En clair, Estelle Schmitt, Laurent Wauquiez veut tourner la page. Calmels au plus vite.
Avancer, c'est sans doute le verbe le plus prononcé par l'entourage de Laurent Wauquiez. Pas question de rester sur cet épisode dérisoire, martèle un cadre. Les proches du patron des LR relativisent tous l'éviction de Virginie Calmels. La vie du parti ne s'est pas jouée dimanche, insiste une députée. Priorité donc à la base, aux militants, d'où cette lettre appel au rassemblement envoyée hier soir aux adhérents par Laurent Wauquiez. Et priorité aux idées. La stratégie désormais, c'est de foncer, proposer pour s'opposer à Emmanuel Macron, explique un élu. Il y a d'abord le projet européen, le Conseil national, le Parlement du parti, se réunit dans une dizaine de jours pour discuter de la ligne pour les élections européennes de 2019. L'occasion de montrer qu'à droite on sait débattre et qu'on écoute tout le monde, affirme un wauquiésiste. Autre chantier, le shadow cabinet, le contre-gouvernement promis par Laurent Wauquiez pendant sa campagne. Il sera annoncé avant la rentrée, assure son équipe. Mais l'exercice a viré au casse-tête. Certains se disputent un poste, confie un député, et d'autres refusent d'y entrer car ils ne veulent surtout pas s'afficher aux côtés de Laurent Wauquiez.
Estelle Schmitt, direction Pékin maintenant, où la colère monte face aux dernières menaces des États-Unis. La guerre commerciale entre les deux pays se rapproche chaque jour un peu plus. Hier, Donald Trump a demandé à son administration d'identifier 200 milliards de dollars de biens chinois en vue d'instaurer des droits de douane supplémentaires de 10%, intolérables pour les autorités chinoises. À Pékin, Simon Le Plâtre.
La Chine n'entend pas céder aux menaces de Donald Trump. Après avoir annoncé des droits de douane égaux à ceux brandis par les États-Unis vendredi dernier, la Chine a répondu aux nouvelles menaces américaines mardi. Le ministère chinois du commerce a dénoncé un chantage dans un communiqué. La Chine a menacé d'appliquer une combinaison de mesures quantitatives et qualitatives. Pourquoi qualitatives ? Parce qu'en quantité, cette fois, la Chine ne peut pas rivaliser tout simplement parce qu'elle importe presque 4 fois moins de produits américains que ce que les États-Unis n'importent de Chine. Mais la Chine a d'autres leviers. Elle pourrait par exemple rendre la vie dure aux nombreuses entreprises américaines installées en Chine. Mais tout ça n'est peut-être qu'une nouvelle phase d'un jeu de poker entre l'administration Trump et celle de Xi Jinping. Cela fait maintenant 3 mois que les 2 premières puissances économiques mondiales échangent des menaces de sanctions. Les Chinois avaient fait quelques concessions en mai et promis d'acheter plus de produits américains pour rééquilibrer la balance commerciale. Cette fois, Trump fait encore monter les enchères, mais personne n'a intérêt à ce que ces taxes soient appliquées. Shanghai, Simon Le Plâtre pour France Inter.
Ils sont régulièrement dans la ligne de mire des anti-malbouffe, les fabricants de bonbons. Eh bien, ils vont répliquer. Les confiseurs français signent en effet une charte d'engagement aujourd'hui qui porte notamment sur la sécurité de leurs produits destinés en grande partie aux enfants. Ils promettent ainsi de fabriquer des bonbons sans dioxyde de titane, cet additif très controversé, Sandy Dauphin.
Le dioxyde de titane, qu'on appelle également le E171, est un colorant qui sert à obtenir un blanc plus blanc et un enrobage plus brillant. Le gouvernement veut suspendre ces nanoparticules dans l'alimentation d'ici la fin de l'année. Le syndicat des confiseurs français, soit la grande majorité des marques, a devancé l'interdiction. Sa secrétaire générale Florence Pradier.
Dès 2017, un engagement au retrait a été pris par 100% des entreprises. 90% d'ailleurs l'ont déjà fait à l'heure où je vous parle. Et il reste quelques entreprises dont les process doivent être modifiés et il n'y en aura quasiment plus d'ici la fin de l'année.
En 2017, une étude de l'INRA, l'Institut national agronomique mené sur les rats avait identifié un danger associé à l'ingestion de dioxyde de titane. La marque de bonbons Lutti a décidé de se passer de cet additif depuis 2 ans, son PDG Sébastien Berre.
On n'a pas attendu de voir si le doute se vérifiait ou pas. Plutôt que de faire du blanc avec un produit, vous faites du blanc comme des blancs en neige, c'est-à-dire que vous incorporez des bulles d'air dans la pâte de bonbons, ce qui fait que la pâte qui est comme un blanc d'œuf un peu translucide et jaunâtre devient complètement blanche grâce uniquement à l'incorporation de bulles d'air.
Désormais, les fabricants de bonbons misent également sur les colorants naturels et recettes réduites en sucre comme nouvelle stratégie de marketing.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter. Les Français, vous êtes généreux. Plus des trois quarts, des Français font des dons chaque année. C'est le résultat d'un sondage Odoxa Litchi pour France Bleu. Principaux bénéficiaires de cette générosité, les proches en difficulté. 8 Français sur 10 déclarent aussi chaque année faire des dons d'argent à des associations, des fondations ou des projets. En moyenne, chacun donne 246 euros par an. En outre, 9 Français sur 10 donnent chaque année du temps, des vêtements, de la nourriture à une association. En Charente, un exemple, ça peut être la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou les Restos du Cœur. Marie-Laurence Dalle est allée, elle, voir dans le vestiaire, l'un des vestiaires de l'un des 3 centres de distribution des Restos du Cœur Rochelet à Bongraine. Son reportage.
Bien rangés sur des étagères, des portants ou dans des boîtes, il y a des vêtements partout et tous ou presque viennent des penderies de particuliers.
Pratiquement tous les jours, on a des sacs de vêtements qui arrivent.
Gilles est le responsable des Restos du Cœur de Bongraine.
On ne fait pas de collecte à proprement parler, donc ce sont les personnes qui nous les amènent. Regardez, autour de nous, on est quand même bien chargé au niveau des vêtements.
Quelquefois, les bénévoles ont même du mal à suivre, explique Marie, la responsable du vestiaire.
C'est vrai que quelquefois, on n'arrive pas à tout trier dans la journée. Ça nous arrive d'avoir des manteaux de fourrure, de vraie fourrure, et du cuir aussi. Ce qui arrive le plus, les vêtements pour femmes. Les hommes doivent user jusqu'au bout, ou alors se changent moins que les femmes.
C'est parce que les femmes donnent moins d'argent que les hommes, mais plus souvent des objets ou des vêtements, nous apprend notre sondage Odoxa Litchi, les uns et les autres préférant donner directement. Ainsi explique Marie, la responsable du vestiaire, les boîtes de collecte installées par une autre association dans l'agglomération de La Rochelle n'ont pas fait baisser le volume de dons de vêtements au Resto du Cœur.
Au contraire, on a l'impression que les gens nous les apportent. Nous, peut-être plutôt que d'aller dans les bornes où quelquefois c'est rempli ou c'est enlevé par n'importe qui, alors que nous, ils savent que ça va être mis à disposition des personnes qui en ont besoin.
À Bongraine, comme ailleurs au Resto du Cœur, ce sont les vêtements pour enfants de 6-8 ans, les vêtements et chaussures d'hommes qui manquent le plus.
Le reportage de Marie-Laurence Dalle à Bongraine, en Charente. Quelques mots de sport. Programme de la Coupe du Monde de football aujourd'hui à suivre. Colombie-Japon à 14h, Pologne Sénégal 17h, Russie, Égypte à 20h pour leur deuxième match de poule. Le divorce était également devenu inévitable, ça c'est de la Formule 1, l'écurie Red Bull. Red Bull ne sera plus motorisée par Renault en 2019, elle utilisera à partir de la saison prochaine des moteurs Honda. La météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Une belle journée qui s'annonce, Elodie Calac.
Large avantage pour le soleil, on le trouve sur toutes les régions du sud et il progresse vers Poitou-Charentes, le centre, la Bourgogne et l'Alsace. Il faut quand même s'attendre à voir quelques nuages sur le relief, parfois inondés sur les Alpes sous les nuages les plus joufflus. Des pays de la Loire vers le bassin parisien, les Ardennes, le nord de la Lorraine, les nuages se morcellent au profit de bons moments de soleil. En revanche, ça reste plus nuageux entre la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. Les températures sont en hausse, souvent comprises entre 25 et 30 degrés. 27 à Paris, Nantes, Besançon, 30 à Limoges, Montauban et Grenoble. C'est plus juste près de la Manche avec 18 à 23 degrés. Mais c'est plus chaud autour de la Méditerranée, 28 à 33 degrés attendus, les 33 pour Marseille ou pour Sète. Demain encore une petite hausse pour les températures, souvent 27 à 33 degrés avec du soleil.